Binti Minoudi, l'émission politique d'RCFM, Patrick Winschiger.
Bienvenue dans ce nouveau numéro de Binti Minoudi avec un invité ce soir dont la parole est plutôt rare. Il est pourtant sénateur Les Républicains de la Corse du Sud. Nous allons essayer de rattraper le temps perdu. Jean-Jacques Panunzi, bonsoir.
Bonsoir.
Merci ce jeudi d'avoir préféré nos studios au Palais du Luxembourg. Beaucoup de choses au menu de ce Binti Minoudi. Votre action de sénateur, bien sûr, votre regard sur la fin du grand débat national et puis bien sûr les affaires de la Corse, la collectivité unique, les prochaines échéances électorales et les rapports qui se tendent entre Paris et la majorité territoriale, alors que la ministre de la Cohésion des Territoires, Jacqueline Gourault, est à partir de demain en Corse. C'est dans ce contexte qu'ont eu lieu le week-end dernier plusieurs attentats du nord au sud de l'île. Simple avertissement ou alors retour de la lutte clandestine, cette semaine, le dossier de Binti Minoudi.
Binti Minoudi, le dossier.
À quelques jours de la venue annoncée puis reportée d'Emmanuel Macron dans l'île, les bombes se sont invitées dans le grand débat des attentats contre des intérêts immobiliers qui s'inscrivent dans un contexte tendu de dialogue entre l'État et les nationalistes au pouvoir, des nationalistes, à l'image de Jean-Félix Acquaviva, le chef de file de Femoa Gourcigue, embarrassé par ce regain de violence.
Il est un peu tôt pour voir s'il y a une dimension politique derrière ces attentats, donc il faut avoir des éléments beaucoup plus précis. Deuxième élément, vous savez que Femoa Gourcigue restera sur le chemin de la démocratie comme moyen, comme objectif, parce que c'est comme cela que la Corse avancera dans la transformation de ce pays. Mais globalement, il y a aussi une situation qui fait que nous pensons que le gouvernement, comme ça a été le cas pour la taxe carbone avec les gilets jaunes, a été un petit peu incendiaire en jetant de l'essence sur des braises. C'est pour ça que nous insistons aujourd'hui pour qu'il y ait un changement de braquet.
Dans le camp de l'opposition à droite, ces attentats inquiètent Jean-Martin Mondelone. Même si le président du groupe Pellaben à l'Assemblée de Corse reste prudent.
On ne peut que craindre de revoir ce qu'on croyait définitivement dépassé, émerger des cycles qu'on croyait désormais clos. Il conviendra d'être vigilant et appeler collectivement, dans la diversité de nos opinions, à l'apaisement. Je crois que ces cycles n'ont jamais rien produit de fertile en Corse par le passé. Je ne veux pas croire qu'il s'agisse d'un mauvais signal, une fois encore.
Un signal en tout cas au-delà des rapports difficiles entre Paris et la majorité nationaliste qui intervient dans un climat très tendu avec une manifestation à l'initiative du collectif Parlem aux Gourses le 23 mars, une autre annoncée par la Sauge aux Patriotes. Jean-Charles Orsucci, le maire République en marche de Bonifacio, en appelle au dialogue à une solution politique.
Je le répète, il faut que Gilles Siméon et le gouvernement se mettent autour d'une table et trouvent les moyens de discuter. Il faut revenir au dialogue. Il appartient à ce gouvernement de réussir à tourner une page définitive de la violence, et pour ça il faut une solution politique au problème de la Corse. Ça doit être mis aussi sur la table. Si demain on échoue entre le gouvernement et la majorité territoriale, c'est une porte grande ouverte à des gens qui vont se tourner vers l'indépendantisme, et ça, moi, je ne le souhaite pas.
Des réponses peut-être avec Jacqueline Gourault en Corse à partir de demain, plus sûrement avec le président de la République dont la venue à nouveau repoussée devrait quand même avoir lieu fin mars, début avril.
Binti Minoudi, Patrick Winschiger.
Avec ce soir Jean-Jacques Panunzi comme invité, Jean-Jacques Panunzi, sénateur Les Républicains de Corse du Sud, faut-il craindre un retour de la violence politique ?
Écoutez, moi je resterai prudent comme les personnes qui viennent d'en parler. Prudent parce que lorsqu'on réfléchit un petit peu à ce qui s'est passé ces 20 ou 30 dernières années alors que nous vivions des moments difficiles, les diagnostics n'ont toujours pas été les bons que les uns et les autres ont fait, et souvent nous avons eu des surprises. Alors, je souhaite bien entendu que ce ne soit pas encore une reprise de la violence politique, parce que ce serait catastrophique pour la Corse et pour les Corses.
Quoi qu'il en soit, Jean-Jacques Panunzi, le climat dans l'île, violence politique ou pas, est tendu. Des manifestations, on l'a dit, s'organisent. Les relations entre l'État et les nationalistes au pouvoir sont exécrables. Le dialogue est au point mort. Vous qui avez à la fois un pied à Paris et un pied en Corse, c'est quelque chose que vous ressentez ?
Je le ressens, je dirais, à travers les déclarations qui sont faites par les élus nationalistes. Je ne le ressens pas, je dirais, par les autres élus. Mais je veux dire que, à partir du moment où vous interrompez le dialogue avec, les représentants de l'État, pas forcément avec le président de la République, mais nous avons quand même assisté à, je dirais, une volonté de l'État d'essayer de d'introduire un dialogue entre la Corse et le gouvernement. On ne peut pas toujours, l'État ne peut pas toujours donner de réponses positives pour essayer de contenter, je dirais, des revendications qui existent depuis 30 ou 40 ans. Bon, je vous fais par exemple une comparaison. L'État ne peut pas se comporter comme s'est comporté le gouvernement à l'époque de Monsieur Valls, à travers Madame Le Branchu, lorsqu'ils ont décidé de supprimer les conseillers départementaux. Et tout ça pour satisfaire une revendication nationaliste. Alors, ce n'est pas forcément la volonté de tout le peuple corse.
Alors, à vous entendre, la responsabilité de ces mauvaises relations incombe, selon vous, aux élus corses.
Mais ça incombe les élus, qu'ils soient nationalistes, qu'ils soient de gauche, qu'ils soient de droite, qui ne sont pas disposés à entretenir un dialogue avec l'État. J'ai été 10 ans président du Conseil Général, je n'ai pas toujours été d'accord, et les uns et les autres le savent, avec, je dirais, les dispositions et les propositions souvent que me faisait l'État, mais je n'ai jamais interrompu un dialogue, et ça m'a permis, bien souvent, d'aller au bout de ce que je revendiquais.
Alors, Gilles Séméone, quand il déclare dans un récent communiqué que Paris affiche vis-à-vis de la Corse de l'indifférence, voire du mépris, il a tort, selon vous ?
Mais bien entendu qu'il a tort. Il ne doit pas parler comme ça, déjà, des représentants de la nation. Bon, vous vous adressez quand même au président de la République, vous vous adressez à ses ministres, il faut un minimum de courtoisie, mais au-delà de la courtoisie, soyons sérieux, il ne faut pas interrompre le dialogue. Si vous voulez qu'il y ait une construction, une co-construction, le mot est à la mode, entre les uns et les autres, vous ne pouvez pas interrompre le dialogue qui vous est proposé. La Corse a trop besoin, je dirais, du partenariat de l'État, surtout par les moments qui courent.
Comment sortir de cette crise, Jean-Jacques Panunzi? Jacqueline Gourault, donc ministre de la Cohésion des Territoires, est en Corse dès ce vendredi. Les élus nationalistes veulent des réponses concrètes. Jean-Christophe Angelini, sur le plateau de Contraste, a indiqué qu'il attend carrément une réponse rapide de niveau institutionnel et constitutionnel. Jean-Charles Orsuch aussi, vous l'avez entendu, réclame une solution politique. Et vous, monsieur Panunzi, qu'attendez-vous de Paris aujourd'hui?
Mais écoutez, les nationalistes veulent des réponses concrètes. Mais des réponses concrètes à quoi?
Par exemple, sur le plan fiscal, ils réclament un statut fiscal, sur la langue corse.
Alors écoutez.
Sur les prisonniers politiques, beaucoup réclament une amnistie.
Les nationalistes aujourd'hui se sont fait prendre à leur propre piège. Parce qu'il ne fallait pas accepter la proposition de Madame de Branchu et de Monsieur Cazeneuve d'accrocher la Corse à travers un amendement dans le cadre de la loi NOTRe.
Pour la création de la collectivité unique.
Pour la création de la communauté unique. Et il fallait impérativement insister sur le principe que la Corse a eu 3 statuts, 82, 91, 2002, mais il fallait un 4e statut avec une loi spécifique pour la Corse. Aujourd'hui, ils revendiquent ce que nous aurions dû tous ensemble revendiquer à l'époque en refusant de rentrer dans la loi NOTRe à travers un amendement. Il fallait une loi spécifique pour la Corse. Et à ce moment-là, on aurait été tous d'accord pour travailler sur un statut fiscal. Statut fiscal, je précise bien, qui ne peut pas être fait et élaboré de façon légère, parce que il faut mesurer les conséquences que ça pourrait avoir par la suite. Donc, on ne peut pas, faire et accepter les choses comme elles ont été faites pour cette collectivité unique. Lorsque M. Cazeneuve est arrivé, on se recrute dans une cour de récréation et qu'il a dit aux nationalistes « chiche, chiche ». Voilà, il les a pris pour des élèves.
Mais Jean-Jacques Panon disait le passé est le passé. Illustration parmi d'autres des difficultés de relations entre la Corse et le gouvernement, l'énergie, les promesses faites sous le mandat Hollande ne sont apparemment pas toutes tenues. La semaine dernière, d'ailleurs, au Sénat, vous avez interrogé Jacqueline Gourault sur l'avenir énergétique de l'île, quid de la centrale du Vaz, de l'arrivée du gaz naturel, du gazoduc, pourtant promis.
Oui, c'est exact. Vous avez raison. Et non seulement ça a été promis, mais il y a un décret qui a été pris et qui devrait être respecté et qui doit être respecté. C'est la raison pour laquelle j'ai interpellé la ministre. Mais ce décret, qu'est-ce qu'il dit ? Il ne dit pas tout à fait les mêmes choses que revendiquent les nationalistes et certaines associations. Le décret, il dit la construction d'une infrastructure au gaz. Il dit la construction d'une centrale, celle qui doit remplacer le Vage.
Au gaz naturel.
Non. Avec deux moteurs convertibles. Pourquoi ? Parce que l'arrivée et l'installation du gaz risque d'être plus long que la construction de la centrale. Et la centrale est prévue dans un premier temps à tourner, pour tourner avec du fuel domestique.
Mais sans rentrer dans les détails, la parole n'a pas été tenue sur ce dossier-là. Vous n'êtes pas tenu.
Non, on ne peut pas dire que la parole n'a pas été tenue. N'a pas été tenue parce que nous sommes sur, je dirais, des hypothèses où éventuellement il y aurait peut-être un changement de stratégie. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas installer le gaz et qu'ils ne vont pas construire la centrale du gaz. J'ouvrirai une petite parenthèse. Lorsque Mme Ségolène Royal est venue pour signer la fameuse convention...
Alors
ministre de l'Environnement, sur la PPE, et qu'elle a essayé de faire croire à tout le monde qu'il allait se créer un gazoduc de Bastia à Ajaccio, j'ai été le premier et j'ai des témoins à lui dire « Madame la ministre, je ne crois pas une seconde qu'avec les difficultés d'urbanisme que nous connaissons en Corse, vous puissiez traverser la Corse avec un gazoduc en 3 ou 4 ans. C'est impossible. » Voilà.
Donc, là encore, sur ce dossier, vous prenez en quelque sorte la défense du gouvernement par rapport aux élus corses.
Non, j'essaye de rétablir et de dire la vérité. Moi, je n'ai jamais cru au gazoduc. Par contre, l'État propose aujourd'hui de construire une barge à Luciane et une barge dans le golfe d'Ajaccio. Ça coûterait éventuellement moins cher. On n'aurait pas ces problèmes d'expropriation à régler pour traverser toute la Corse.
Donc ça pourrait être une bonne solution.
Et nous aurons le gaz. Ce qui est important, le plus important dans cette affaire, c'est la construction de la nouvelle centrale du Vaz. Les Ajacciens ne peuvent pas continuer à supporter, à avoir au-dessus de la tête une usine qui continue à fonctionner au fioul lourd.
Alors, votre intervention au Sénat la semaine dernière sur l'énergie nous amène à parler de votre travail au Sénat. C'est une action discrète, hein, beaucoup plus discrète en tout cas que celle de vos collègues de l'Assemblée nationale. Pourquoi vous l'attribuez à votre trait de caractère ou c'est simplement le fait que dans la 5e République, la 2e Chambre n'a pas véritablement le pouvoir parlementaire ?
Non,
qui revient à l'Assemblée nationale.
Je dirais que le Sénat a une fonction différente de celle de l'Assemblée nationale. D'abord, le Sénat, ce n'est pas forcément, je dirais, une chambre politique. Il nous arrive bien souvent, toute obédience confondue, de voter les lois à l'unanimité, tous ensemble. Donc bon, mon intervention au Sénat, sachez que j'ai quand même été, dès que je suis arrivé, un an après, j'ai déposé une proposition de loi sur le rapprochement des prisonniers politiques. Bon, la loi n'est pas sortie, mais le fait d'avoir déposé cette proposition, ça a quand même fait évoluer les choses, puisqu'on a constaté qu'à ce moment-là, bon, un vrai débat a eu lieu entre la Corse et l'État pour que, éventuellement, on puisse rapprocher tous les prisonniers qui pouvaient être rapprochables. Bon, ça a quand même facilité les choses. Ensuite, j'ai fait plusieurs interventions. En 2015, j'ai été le premier à interroger le ministre de la Transition écologique sur la fameuse PPE, sur l'éventualité.
Le plan sur l'énergie.
Le plan sur l'énergie. J'ai interrogé le Premier ministre sur le financement de la nouvelle collectivité.
dans le micro, s'il vous plaît.
Sur le financement de la nouvelle collectivité, s'il s'engageait, oui ou non, à essayer de construire avec nous un véritable statut fiscal et à donner les moyens à cette collectivité de fonctionner.
Et parlant de cette collectivité unique, vous avez une proposition, un projet peut-être à déposer dans les prochaines semaines concernant l'organisation des élections territoriales de 2021.
Je suis en train de travailler effectivement sur la territorialisation du mode du scrutin pour les prochaines élections territoriales. La Corse aujourd'hui, par rapport, je dirais, aux autres régions de France, il y a une question qui se pose, il nous manque un échelon intermédiaire entre la commune et la région. Vous avez pu remarquer que dans le cadre de la loi NOTRe, la seule chose qui n'a pas été supprimée, ce sont les départements en France. On les a supprimés en Corse pour faire plaisir aux nationalistes, c'est tout. Bon, ça n'a pas amélioré le fonctionnement de nos institutions en Corse, le fait qu'il n'y ait plus de départements. Et ça n'a pas, je dirais, garanti une meilleure santé des communes et des collectivités de Corse.
Vous étiez contre la collectivité unique. Vous avez voté contre, en tout cas.
J'étais contre. J'ai fait voter le Sénat contre les ordonnances.
Et donc là, vous avez une proposition concernant l'élection précisément pour rapprocher la collectivité unique des territoires.
Ben oui. Il s'agit tout simplement d'essayer de trouver un moyen pour que tous les territoires soient représentés à l'Assemblée de Corse. On avait travaillé en 2008 sur une territorialisation de la région Corse. On avait découpé la Corse en 11 territoires. Je propose que on fasse une élection à la proportionnelle avec le même mode de scrutin, mais par territoire, en fonction, je dirais, du nombre de populations sur ces territoires. On va organiser une représentation démocratique telle que les nationalistes et que beaucoup de personnes le souhaitent.
Pour renouer le lien de proximité.
20 minutes, l'émission politique.
On reparle à l'instant de la collectivité unique. J'ai rappelé que vous étiez contre. Elle a été mise en place il y a un an. Quel bilan en tirez-vous, et notamment de la gestion qu'en est faite par les nationalistes?
Écoutez, je dirais qu'ils ont été... Je ne peux me prononcer que par rapport à ce que je lis dans la presse ou dans les médias, puisque je ne suis pas élu régional. Mais je ferai une constatation. Et ils ont été très performants dans la conquête du pouvoir. Ils le sont beaucoup moins dans la gestion. À en lire, je dirais, les quelques remarques que je peux lire dans la presse. Je veux pas porter de jugement sur le principe de la gestion, parce que c'est trop compliqué. Il faudrait que je sois élu pour que je puisse avoir certains documents. Par exemple, bientôt, ils auront le compte administratif. À ce moment-là, on aura une idée, une photographie de leur gestion depuis l'année précédente. On verra un peu. Mais ce que je ressens par rapport, je dirais, à ce que je lis et aux personnes, parce que je continue quand même à voir quelques maires, puis avoir, j'ai quand même géré une collectivité où il y avait 1500 personnes.
Vous avez été longtemps président du conseil départemental de la Corse du Sud.
Voilà, j'ai quand même quelques contacts.
Et aujourd'hui, on vous sent un peu absent du débat Corse-au-Corse, de la joute politique ici. C'est une volonté ou...
Non, je ne reste pas absent du débat Corse-au-Corse. C'est-à-dire que d'abord, un, il faudrait que je sois invité. Deux, il est vrai que je ne peux pas avoir, je dirais, le même raisonnement que ceux qui sont impliqués et qui sont élus en Corse. Moi, j'ai un rôle de parlementaire. C'est différent. C'est différent, même si je continue à défendre ma région.
Alors, ce rôle, votre mandat se termine dans un peu plus d'un an. Vous allez vous réengager ici dans la vie politique insulaire ou solliciter un nouveau mandat?
Alors, écoutez, je réfléchis. Non, mais je vais vous dire la vérité. J'ai déjà dit que je serai candidat pour un prochain mandat au sénatorial. J'ai déjà consulté quelques-uns de mes amis, j'ai déjà consulté quelques maires. Bon, apparemment, ils sont satisfaits de ce que j'ai fait jusqu'à présent et ils souhaitent que je fasse acte à nouveau de candidature. Mais je ne m'interdis pas non plus de repartir en politique sur le scrutin territorial. Si je vois que les choses n'évoluent pas continue, je dirais, à évoluer dans ce sens et qu'il n'y a pas, véritablement pas, une ouverture, une stratégie, une nouvelle dynamique pour la Corse.
Vous pourriez être leader ?
Ça, d'abord, je consulterai mes amis. Mais je serai, en tout cas, dans l'équipe.
Avant 2021, il y a les municipales, il y aura les municipales. Vous serez derrière Laurent Marcangeli à Ajaccio, même s'il n'est plus encarté Les Républicains. Et qu'il semble plutôt Macron compatible que Wauquiez compatible.
Non, pas du tout. Non. Vous connaissez les rapports que j'ai avec le maire d'Ajaccio. Ils sont pas bons. Ils sont excellents. C'est pas de l'amitié que j'ai pour lui, c'est de l'affection. Nous sommes très proches l'un de l'autre. Il a souhaité se consacrer à sa ville. Et le fait, je dirais, de prendre un petit peu de recul par rapport, je dirais, aux appareils parisiens me semble être une bonne chose. Je n'ai pas toujours été d'accord, moi non plus, avec les appareils parisiens. Et créer son propre parti, parce qu'il croit en sa ville et il croit en sa région, je pense que c'est une bonne chose. D'ailleurs, le nombre d'adhérents le prouve, puisqu'il a déjà plus de 1100 ou 1200 adhérents.
Et donc, vous serez derrière lui.
Tout à fait.
Eh bien, Jean-Jacques Panoun, ce sera le mot de la fin. Merci d'avoir été notre invité aujourd'hui.
Merci à vous.
RCFM, Bintiminoudi, l'émission politique.
Bintiminoudi avec Jean-Jacques Panoun, c'est terminé. Une émission à écouter ou réécouter sur notre site bleu rcfm.fr. La semaine prochaine, même lieu, même heure, nous recevrons Louis Pozzo-Diborgo, adjoint au maire de Foriani, conseiller territorial FEMOA Grossiga. À suivre dans un instant, Michael Andréani.